Vous écoutez On lit pour vous.
Un peu d'initiative ensoleillée. Une chronique de Julie Vaillancourt, parue le 20 mai 2026 dans le magazine Fugue. Parce que l'hiver a été rude, en neige et en actualité sociopolitique déprimante, j'avais envie de vous offrir un peu de soleil en ce début d'été grâce à des initiatives inspirantes. À l'international, le mois de juin est celui de la Pride, bien qu'ici, nos célébrations de la fierté se déroulent en nous, à Montréal. En ce sens, j'avais envie de débuter ma chronique en mettant de l'avant la communauté LGBTQ+, pour ce qu'elle est, ouverte et innovante. En Angleterre, le Posh Club promet de divertir une clientèle aînée en moyenne de 75 ans, où majoritairement des femmes, surtout hétéros, viennent manger des petits sandwichs sans croûte, des scones, boire de l'alcool et danser sur des airs disco, en après-midi, pendant que des stripteaseurs et des drag queens animent l'endroit. Présenté les derniers mercredis de chaque mois pour la modique somme de 10 livres, environ 20 $ canadiens, grâce à l'aide financière du Conseil des arts d'Angleterre, cet événement digne du cabaret Mado, qui rencontre le campus et le Unity, où beaucoup de bénévoles sont ouvertement queers, et où règne une ambiance LGBTQ+, à souhait, est un success story. L'aventure du Posh Club, maintenant active à 5 endroits à Londres, ainsi que dans plusieurs localités du sud de l'Angleterre, a pris naissance à Crawley, une ville du West Sussex, alors que Simon Casson et sa sœur Annie voulaient désennuyer leur mère de 80 ans, qui se sentait un peu seule après son déménagement. Ce qui a commencé par un salon de thé des plus « british » est rapidement devenu la boîte de nuit de l'après-midi la plus haute en ville pour aînés dès 2014. Étonnant, non? Ça fonctionne parce que nous, les queers, on sait comment ça marche, le glamour et le showbiz, explique justement le fondateur Simon Casson, également propriétaire du Duckies, une boîte de nuit et un collectif LGBTQ+, londonien, réputé depuis plus de 30 ans pour ses performances queers d'avant-garde. Je n'ai fait qu'appliquer le concept de Duckies à des générations plus vieilles, confia-t-il à la presse. À quand les Posh Clubs au Québec? J'ai failli ajouter les Posh Clubs pour lesbiennes, mais je dois avouer que lorsqu'on parle de communauté lesbienne, celle-ci est si peu dense qu'elle peinerait à faire vivre un tel événement. Cela dit, la particularité de la communauté lesbienne est la suivante. Lorsqu'il y a un événement d'envergure, les lesbiennes de toutes les générations se retrouvent en un seul événement. Dans ma jeune vingtaine, je me souviens avoir été marqué par la chose. J'étais sorti au drugstore pour un événement. À l'époque, on m'avait dit que c'était LE bar lesbien en ville. Pourquoi alors, dans le bar le plus cool, y avait-il des femmes de l'âge de ma mère et de ma grand-mère? J'ai compris plus tard que le milieu était si petit que les femmes avaient peu d'endroits pour se rencontrer et, en ce sens, qu'elles se retrouvaient toutes à la même enseigne, peu importe leur âge, classe sociale, ethnicité, conviction politique, etc. Vous ne verrez que très rarement quelque chose de la sorte dans le monde hétéro, car les offres de bars et d'endroits où sortir sont nombreuses. Mais ce n'était pas le cas pour la communauté lesbienne de l'époque. Et si aujourd'hui les offres sont plus variées, dire qu'elles sont nombreuses serait une hyperbole. On peut d'ailleurs constater ce phénomène lors des journées de la visibilité lesbienne, lors desquelles jeunes et moins jeunes se retrouvent au même endroit pour célébrer. C'était le cas, le 2 mai dernier, au Osgang Plaza, sur la rue Saint-Hubert à Montréal, alors que le RLQ organisait son annuel JVL et y présentait son annuaire Lesbo Queer, un projet de recension construit à partir de soumissions volontaires et de mise en lumière des collectifs et groupes Lesbo Queer du Québec afin de visibiliser leurs initiatives. C'est sous le thème Lesbi Uni, UNI.E.S, que s'y sont croisés une myriade d'invités et de panélistes afin de fouler la scène et de prendre le micro pour diverses initiatives et remises de prix. Mentionnons parmi les prix hommage et militantisme dignement mérités des initiatives pérennes qui se démarquent pour leur longévité, soit les Archives lesbiennes du Québec, le Centre de solidarité lesbienne et lesbo-son, animé par Nathalie Di Palma. Et puisque l'on discute d'initiatives pérennes pour les lesbiennes aînées, on ne peut passer sous silence le prix Visibilité octroyé à la Maison des Rebelles, un collectif de 10 lesbiennes aînées ayant créé, après 10 ans de travail acharné, la première communauté autogérée pour lesbiennes vieillissantes au Québec, comptant 22 logements habités depuis 2024. Enfin, parce qu'une lectrice lesbienne aînée a commenté une de mes chroniques hivernales en disant que c'était déprimant, mais je dois ajouter à ma défense que malheureusement, l'actualité des derniers mois est plutôt déprimante, surtout concernant la place des femmes en société, et qu'il ne faut pas faire la sourde oreille si on aspire à changer les choses. Elle m'a proposé un événement qui, selon elle, ferait un bien moral immense à mes lectrices lesbiennes, soit de vous informer de la 9e édition du Congrès international des recherches féministes dans la francophonie, CIRFF, qui se tiendra du 17 au 21 août 2026 à Québec. C'est sous le thème « Réimaginer, francophonie, lutte et savoir féministe » et 30 ans après sa première édition en 1996 que le CIRFF revient à son point d'origine pour célébrer les avancées des recherches féministes francophones et réfléchir collectivement aux enjeux contemporains. L'événement 30e anniversaire, qui réunira des chercheuses, militantes, artistes, etc., de divers horizons, sera à la fois une occasion de célébrer les avancées et de réfléchir aux défis actuels, marqués par la montée du populisme, des discours haineux et le recul des droits des femmes et des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Depuis plus de 30 ans, les recherches féministes francophones interrogent et transforment les structures de pouvoir, tout en tissant des solidarités locales et internationales. Cette édition entend conjuguer mémoire, interdisciplinarité et transmission intergénérationnelle. Bref, cet été, que vous restiez à la maison, que vous déménagiez dans une maison rebelle ou que vous visitiez Québec ou l'Angleterre, les initiatives lesbiennes, féministes et LGBTQ+, y seront. Bon rayon de soleil! C'était Un peu d'initiative ensoleillée, une chronique de Julie Vaillancourt, parue le 20 mai 2026 dans le magazine Fugue.
Patrick Huard ne s'excusera pas d'exister. Un texte de Dominique Tardif, paru le 2 mai 2026 dans La Presse. À 57 ans, Patrick Huard est un homme plutôt serein. Une belle partie de notre jasette sera d'ailleurs consacrée au bénéfice de consulter un psy, un exercice auquel il se prête depuis l'épuisement professionnel qu'il a frôlé après avoir quitté l'animation de La Tour en 2022. Longtemps, à cause d'un article stupide lu dans les années 1990, l'acteur avait craint d'inhiber son muscle créatif s'il domptait ses bibittes. Longtemps, Patrick Huard s'est fait une fierté de traverser chaque épreuve sans aide, comme tant d'hommes. On s'enorgueillit de passer au travers de quelque chose seul, observe-t-il. Mais l'important, est-ce que c'est de passer au travers seul ou de passer au travers? Si j'ai réglé ce problème-là, mais que j'en ai créé 3 autres en chemin, peut-être que ce n'est pas un si grand succès que ça. Si vous souhaitez arracher Patrick Huard à sa sérénité, parlez-lui des moyens de plus en plus chétifs avec lesquels les artisans du petit écran doivent accomplir l'impossible. Entre 2023 et 2025, les budgets en télé ont fondu de près de 20% et de 35% pour les fictions plus spécifiquement, a-t-on appris dernièrement. Et pourtant, pour une partie de la population, les craintes de bien des créateurs de voir leur milieu manquer d'air demeurent assimilées à des jérémiades de privilégiés. Mais ce n'est pas une industrie marginale, c'est une industrie hyper importante. Importante autant sur le plan identitaire qu'économique, martèle-t-il. On est toujours en train de s'excuser d'exister, alors que ce qu'on fait, c'est un vrai métier. Vous avez vu la chanson qu'ils ont chantée pour le départ de François Legault? Oui, malheureusement. C'est ce que ça donne quand tu n'investis pas en culture. Tu as des amateurs qui finissent par faire le show, conclut Patrick Huard. Pendant un instant, c'est presque comme si j'étais sur la banquette arrière du taxi de Rogatien. Ça a l'air d'une joke, ce que je dis, mais c'est vrai. L'image était formidable. Voilà des gens qui n'ont pas voulu investir en culture, mais qui voudraient donc bien être connus, qui voudraient donc bien être Céline. Patrick Huard le précise, parce qu'il le faut bien. Ce n'est pas de son portefeuille à lui qu'il est question. Il y a des actrices que vous voyez dans trois séries. Puis vous pensez qu'elles sont riches. Au total, elles ont eu 11 jours de tournage cette année et elles prient pour ne pas être en nomination aux Gémeaux parce qu'elles vont être obligées de s'acheter une robe et elles n'ont pas les moyens. Continuez la mythologie. En entrevue, pour justifier sa décision de ne pas participer au quatrième volet des Boys, Patrick Huard avait jadis employé le parallèle suivant. Le parrain, c'est une trilogie. Plus que ça, c'est Police Academy, une comédie en 7 films qui n'a pas tout à fait triomphé aux Oscars. Où se situe, sur ce spectre, la nouvelle incarnation de Bon Cop, Bad Cop, qui renaît sur Crave sous la forme d'une série en 6 épisodes? Patrick rit. Le truc, c'est que tu ne le sais jamais pendant que tu le fais. Est-ce que moi, je trouve ça bon? Vraiment, beaucoup. Mais c'est la cruauté et la beauté de l'art, dit-il encore. Il n'y a rien de tout ça qui t'appartient, et encore moins au Québec, parce qu'une grande partie de ça est faite avec l'argent du monde. Patrick Huard aura eu à négocier avec plusieurs tuiles en amont du tournage. D'abord, la grossesse surprise de celle qui incarne sa policière de fille, Sarah-Jeanne Labrosse, puis le désistement de Colm Feore au dernier moment, un dossier sur lequel il préfère ne pas s'épancher, parce que, visiblement, c'est encore sensible. Tourné notamment dans la communauté de Jescapédiac, en Gaspésie, le « Bon cop, bad cop » nouveau repose sur un flash qui date d'une dizaine d'années, alors que le scénariste pêchait sur la rivière Cascapédia avec des amis Mi'kmaq. Ajoutez un policier autochtone, Joshua Hodgick, à son duo dépareillé, formé d'un franco et d'un anglo, désormais incarné par Henry Czerny. Tout ça me permettait de continuer la mythologie de Bon Cop, Bad Cop, mais de façon moderne. Au nom du père. À une autre époque, Patrick Huard pensait à son père, son plus grand fan, au moment de recevoir une invitation lucrative. Né dans un milieu modeste, au cœur du quartier Rosemont, le fils a vu son paternel perdre ses cheveux dans son casque de construction. Quand on me proposait des contrats alléchants, se souvient-il, Je répondais toujours oui, essentiellement par culpabilité, parce que je me disais que je ne pouvais pas refuser autant d'argent. Mais à un moment donné, ce n'est pas parce que je peux le faire que je dois le faire. Aujourd'hui, Huard pense surtout à son défunt papa quand il se débat avec quelque chose qu'il répare. Je l'appelle dans ma tête et je lui dis « Là, j'ai tel tuyau, telle patente. Qu'est-ce que tu ferais? » Patrick devient soudainement plus grave. Mais il ne faut pas que je pense au fait qu'il ne verra pas la nouvelle série. Parce que ça, ça me bouleverse. Trois citations tirées de notre entretien. À propos de Louis Saya. Le matin où on devait tourner ma première scène dans Les Boys, où mon personnage fait visiter un condo, Louis vient me voir et il me dit « Me semble que ça pourrait être plus drôle. On va-tu réécrire ça sur l'heure du dîner? » Fait que on part manger dans une trattoria de la petite Italie et on réécrit la scène sur des petits napperons en papier. Ça a été l'histoire de chacun des boys, ça. On réécrivait des lignes, on créait des scènes on the spot. Louis nous donnait cet espace-là. Il voulait que les gens aient du plaisir. À propos de Franco Nuovo, sa mort m'a vraiment beaucoup bouleversée. Franco et moi, on s'obstinait parfois de façon un peu flamboyante. Quand Pierre Bourgault était malade, on avait fait un dernier dîner avec lui. Et ça avait revolé. On savait que c'était probablement la dernière fois qu'on mangeait avec Pierre. Et on s'était obstiné toute la gang pendant 2 heures. Et je ne sais pas comment expliquer à quel point c'était comme une forme d'amour pour nous autres, de respecter assez l'intelligence de l'autre pour rentrer dans sa théorie. Avec Franco, on refaisait le monde, tout le temps. À propos de Pierre Falardeau, je m'occupais de la mise en scène d'un spectacle hommage à Richard Desjardins sur les plaines à Québec, auquel Falardeau participait. Un soir, on va manger et on se met à parler de politique. À l'époque, c'était la montée de l'ADQ. Et Falardeau dit « Je ne comprends pas cette affaire-là. » J'avais mon occasion de le faire pomper. Je me mets à lui faire croire que j'allais voter ADQ et à lui donner plein d'arguments. Il n'a jamais pogné les nerfs. Il essayait de comprendre. Après 25 minutes, je n'étais plus capable de tenir le personnage. Il était soulagé. Dans la vie, l'homme était beaucoup plus sensible, moins virulent qu'on l'aurait cru. C'était « Patrick Huard ne s'excusera pas d'exister », un texte de Dominique Tardif, paru le 2 mai 2026 dans La Presse.
Ce qui nous a fait du bien cette semaine, un collectif paru le 8 mai 2026 dans La Presse. Des chroniqueurs de La Presse sont revenus sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours. Le retour du défi pissenlit. Texte d'Ariane Kroll. Les dents de lion sont encore rares en ce printemps frisquet, mais ce n'est qu'une question de temps. Le défi pissenlit, chapeauté par Naturaction Québec, consiste à retarder la tonte du gazon pour laisser fleurir ses petits soleils dodus. L'objectif officiel est de donner à butiner aux abeilles et autres pollinisateurs, mais ce faisant, les sages pelouses acquièrent un petit air ébouriffé fort réjouissant. Une douce anarchie que je ne suis visiblement pas la seule à apprécier. plusieurs villes rappellent à leurs citoyens qu'une fois les pissenlits montés en graines, il faut ressortir les tondeuses pour respecter la réglementation municipale. Des enfants le nez dans le journal. Un texte de Philippe Mercure. C'est un effet imprévu de la fièvre des séries éliminatoires. Chez moi, la jeune génération plonge le nez dans le journal dès le réveil pour lire les comptes rendus des matchs, prendre connaissance des analyses et suivre les résultats des autres séries. Non, l'intérêt ne se transpose pas encore au détroit d'Ormuz et au débat entourant la disposition de dérogation. Mais j'ose espérer qu'une fois la graine plantée et l'habitude prise, ça me rappelle que j'ai moi-même commencé à m'intéresser à l'actualité en ouvrant le cahier des sports de la presse une trentaine d'années avant eux, en espérant que le même phénomène s'observe dans d'autres chaumières. Le journalisme d'enquête récompensé. Un texte de Nathalie Collard. En février 2026, le milliardaire Jeff Bezos abolissait entre 300 et 400 postes au Washington Post, soit du tiers à la moitié de la salle de rédaction. Douce revanche, lundi, lorsque ce fleuron de la presse américaine a remporté le prestigieux prix Pulitzer pour son reportage de fond sur les coupes de l'administration Trump dans l'appareil fédéral américain et leurs conséquences sur le pays. Au cœur de cette enquête, Anna Nathanson, une journaliste de 29 ans reconnue pour son travail acharné. Son courage et son obstination lui ont valu de devenir une cible de l'administration Trump. Sa maison a été fouillée par le FBI qui a saisi son matériel informatique. Le journalisme d'enquête est devenu périlleux aux États-Unis. Il en est encore plus précieux. Quand la nature supplante les bombes. Un texte de Judith Lachapelle. Une bombe explose dans un champ ou une forêt, laissant un profond cratère dans la zone dévastée. Et après? Le temps passe, le trou devient un étang et, petit à petit, la nature reprend ses droits. C'est ce qu'ont observé des biologistes qui se sont intéressés à ces modifications assez violentes du paysage. L'un de ces étangs les plus connus est le bien nommé Bomb Crater Pond, en banlieue de Londres, creusé après l'explosion d'une bombe allemande en 1945 et devenu aujourd'hui un trésor de biodiversité. En Ukraine, où les cratères du genre se comptent désormais en millions depuis l'invasion de 2022, de petits étangs commencent déjà à naître, comme autant de petits baumes au milieu du fracas. C'était « Ce qui nous a fait du bien cette semaine », un collectif paru le 8 mai 2026 dans la presse.
C'est la fin du courrier à la porte, un texte de Hélène Baril, paru le 16 avril 2026 dans la presse. Récupérer son courrier en pyjama ne sera bientôt plus possible pour les 4 millions de Canadiens qui reçoivent encore des lettres à leur porte. Poste Canada annonce qu'elle mettra fin aux livraisons à la porte partout au pays. Ce chantier s'échelonnera sur 5 années et commencera dès cette année dans 13 villes qui seront converties aux boîtes postales communautaires. 3 villes du Québec font partie de cette première conversion, soit Sept-Îles, La Prairie et Candiac. Le tour de Montréal viendra plus tard, à une date encore inconnue. En même temps que la conversion vers les boîtes communautaires de toutes les adresses au pays, Poste Canada annonce une modernisation de son réseau de bureaux de poste, ce qui devrait entraîner des fermetures. Le nombre de visites dans les bureaux de poste est en baisse et les revenus qu'ils génèrent ont diminué de 30 % depuis 2021. Il y a actuellement 5 900 bureaux de poste au pays. Les premiers changements dans le réseau de bureaux de poste seront apportés dans les régions urbaines qui sont actuellement trop desservies, selon l'entreprise. Des emplois sont en péril, mais la société d'État compte sur les nombreux départs à la retraite à venir pour minimiser l'impact des changements. Poste Canada dit avoir tenu des discussions avec les représentants de ses employés sur les boîtes postales communautaires et le réseau de bureaux de poste et poursuivre sa collaboration avec le gouvernement au sujet de son plan de transformation. Des économies de 400 millions. Les mesures annoncées devraient permettre à Poste Canada d'économiser 400 millions lorsque la conversion sera achevée. Elles visent à stopper l'hémorragie de l'organisation, dont les pertes annuelles s'élèvent à 1 milliard. L'an dernier, le gouvernement fédéral a dû lui accorder un prêt d'urgence de 1 milliard de dollars pour lui éviter la faillite. La fin du courrier livré à chaque porte, présenté comme tournant historique par la société d'État, ne règle pas le problème de fond de l'entreprise, selon l'Institut économique de Montréal, un groupe de réflexion de droite. Il serait préférable de libéraliser le marché des postes et de privatiser Poste Canada, estime Gabriel Giguère, analyste à l'IEDM. Tant que Poste Canada conservera son monopole sur les lettres régulières, le manque d'incitation à la performance continuera de peser sur la qualité du service et les coûts de prestation, a-t-il commenté. La société d'État voudrait retrouver la rentabilité ou être autonome financièrement en continuant de servir tous les Canadiens. On ne peut pas continuer de refiler le coût aux contribuables, a dit la porte-parole de Poste Canada, Ariane Sauvé. Près de 3 adresses sur 4 au Canada sont déjà desservies par des boîtes postales communautaires. Poste Canada souligne que ces boîtes offrent des compartiments verrouillés et sûrs pour les colis. Les colis qui n'entrent pas dans la boîte ou qui nécessitent une signature continueront d'être livrés à la porte ou récupérés au bureau de poste le plus près. Des mesures d'exception sont prévues pour les personnes qui ne peuvent se rendre aux boîtes postales communautaires. Près de 17 000 adresses au pays bénéficient déjà de telles mesures qui incluent la livraison à domicile de manière hebdomadaire ou saisonnière. Poste Canada mettra en branle son processus de conversion dans les secteurs moins populeux ou adjacents à ceux qui ont déjà des boîtes postales communautaires. Les plus grandes villes du pays, dont Montréal, auront un répit en raison de la forte densité de population qui pose des défis supplémentaires, a fait savoir Poste Canada. Des rencontres sont prévues mercredi avec les dirigeants des villes qui sont en tête de liste pour la conversion. Les maires de Candiac et de La Prairie ont fait savoir qu'ils ne feraient aucun commentaire avant cette rencontre. C'est la fin du courrier à la porte, un texte de Hélène Baril paru le 16 avril 2026 dans La Presse.